Alors Jacques Testard, merci de répondre à nos questions. Est-ce qu'on pourrait commencer par définir le transhumanisme ou alors le post-humanisme ? Est-ce qu'il y a une différence ?
Le post-humanisme, c'est ce qui viendra après grâce au transhumanisme. C'est comme ça que je le comprends. Mais le transhumanisme, c'est une idéologie qui profite des acquis assez extraordinaires des laboratoires de recherche depuis 3 ou 4 décennies pour renouer avec des fantasmes immémoriaux. Alors ces acquis, c'est essentiellement dans le domaine du cerveau, de la génétique, bon, dans d'autres domaines aussi, mais ça c'est les plus importants. Et renouer avec des fantasmes immémoriaux, c'est-à-dire aussi bien avec les mythes anciens, des Grecs ou autres, qu'avec ce que tous les gamins pensent. Tous les gamins pensent qu'ils sont immortels, qu'ils sont plus forts que le voisin ou ils ont envie de l'être. Et le transhumanisme nourrit tous ces fantasmes-là en disant grâce à la science récente, ça va devenir possible. Et c'est là que, je pense, il raconte beaucoup de balivernes.
Et alors votre livre s'appelle « Au péril de l'humain ». Quels sont les dangers ?
Moi je ne pense pas que la plupart des promesses des transhumanistes vont se réaliser. Donc je ne pense pas que d'être immortel par exemple sera un danger, parce qu'à mon avis on ne le sera jamais. Mais de faire croire qu'on peut l'être, c'est influencer quelque part la conception que l'humanité a d'elle-même. C'est modifier beaucoup ce qu'on appelle aujourd'hui l'humain, ce qu'on définit comme étant humain, ou même vivant, parce qu'il n'y a pas d'animaux immortels non plus. Hein. Et alors il n'y a pas que le problème de l'immortalité, il y a qu'on sera plus intelligent, qu'on courra plus vite, qu'on sera en bonne santé éternelle par exemple, en bonne santé. Bon, je pense que c'est un mythe. On voit bien que chaque fois qu'on chasse des maladies, il y en a des nouvelles qui arrivent. Et que raconter qu'on sera un jour en bonne santé, je pense que c'est se moquer du monde. Donc, et en même temps, c'est quelque chose qui pousse les gens à croire aussi aux remèdes qui sont fabriqués réellement dans les laboratoires de recherche et à croire que leur bien-être dépend du progrès médical, par exemple. Ce qui est vrai quelquefois, quand on a un cancer et qu'on peut être guéri, bon, c'est vrai. Mais le mieux, ce serait de ne pas avoir de cancer et pour ça, de pouvoir avoir une vie saine, d'éviter les pollutions, bon, il y a un tas d'autres choses. Mais de faire croire aux gens que grâce à la science, on va leur donner les moyens de ne pas être malade, ça les pousse à consommer de plus en plus de médecine. Et les gens prennent de plus en plus de pilules, se surveillent, vont chez tous les spécialistes. Bon, c'est quelque chose qui les empêche de vivre et qui les modifie. Ça veut dire que même si on n'arrive pas à l'état de santé dont parlent les transhumanistes, on va quand même emporter les stigmates.
Alors le transhumanisme, on est entre mythe et réalité, entre prophétie ou peut-être suicide, c'est aussi dans le titre de votre livre. D'après vous, c'est la promesse d'immortalité que nous propose le progrès scientifique et donc d'arriver à une nouvelle humanité n'est pas réalisable. Il y a une fausse promesse ?
Oui, je pense que c'est une fausse promesse parce que certainement que l'humanité va évoluer comme elle a évolué, mais pas du tout dans les proportions que racontent les transhumanistes. Et surtout que ça prend beaucoup de temps pour une évolution, que ce soit une évolution physique, biologique ou une évolution intellectuelle, mentale, comportementale. Tout ça, ça prend du temps. Or, les transhumanistes voudraient tout bouleverser là en une génération, puisqu'ils promettent le post-humain pour 2045. C'est dans 25 ans quand même. Donc c'est tout de suite. Et c'est ça qui est un peu inquiétant, c'est qu'ils veulent tout changer de l'humanité à toute vitesse et partout. Donc ce serait quelque chose, c'est une promesse universelle et à très court terme. Ce qui est le contraire de l'évolution. L'évolution travaille par petite dose. Elle modifie par exemple un individu par une mutation. Cette mutation est testée dans la nature. Le plus souvent, ça marche pas, elle disparaît. Et quand elle marche, elle peut se répandre progressivement dans le reste éventuellement de toute l'espèce. Mais ça prend un temps fou, ça prend beaucoup de générations. C'est-à-dire qu'il y a toujours des moyens de revenir en arrière. Il y a des systèmes de contrôle. Là, il n'y a rien, il n'y a pas de barrage. Ils prétendent que ce qu'ils ont décidé comme étant important, ça va devenir la règle, que ça va pouvoir se faire et que dans 25 ans, ce sera résolu.
Ce bouleversement amènerait quand même ce que vous avez appelé une rupture civilisationnelle. Est-ce que d'après vous, le danger, il serait plutôt éthique en quelque sorte ?
Oui, on peut dire qu'il est éthique, mais j'hésite à employer ce mot-là parce que on le voit bien, surtout là, cette année où on a la révision des lois de bioéthique, que finalement, ce qui sort de tous ces débats-là, c'est simplement la loi du progrès, c'est les intérêts des industriels, des chercheurs, c'est la compétition économique, et que finalement, l'éthique, c'est seulement une façon de faire passer la pilule sur les nouveaux modes de vivre qu'on va nous imposer à force de progrès, entre guillemets.
Là, on parle aussi d'économie. Quel est le lien entre le transhumanisme et le capitalisme ? Est-ce que c'est la question technique ?
Alors, il y a déjà un lien idéologique, on peut dire. Les transhumanistes, c'est des Américains à l'origine de Californie, et beaucoup s'inscrivent dans la tendance qu'on appelle libertarienne, qui n'a rien à voir avec le libertaire de France. C'est l'extrême droite. C'est-à-dire, on peut écraser le voisin, on peut tout, faut pas de sécurité sociale, faut pas d'école publique, faut pas d'hôpitaux. Chacun se bat et que le meilleur survive. C'est ça, le libertarisme. Donc, c'est un truc qui est complètement à l'encontre de, en particulier, ce qu'on a vécu en France. Avec les conquêtes sociales de la libération. C'est exactement l'inverse. Alors déjà, de ce côté-là, on voit que ça sert le capitalisme plutôt que le socialisme, entre guillemets. Mais d'un point de vue carrément économique, il est bien évident que si Google et les autres, Facebook et tout ça, s'intéressent au transhumanisme, puisqu'ils financent abondamment ces recherches, c'est qu'ils ont des choses à vendre. Et ils ont à vendre un tas de programmes, que ce soit sur des robots, sur l'intelligence artificielle, sur les machines à faire du screening génétique, sur bon, toute l'industrialisation finalement des examens, des contrôles, des diagnostics. Tout ça, ça rapporte évidemment de l'argent. Et ça s'inscrit dans une nouvelle économie numérique. Donc le transhumanisme fait partie de tout ça.
Un des problèmes aussi qui est mis en avant avec le transhumanisme, c'est le renforcement des inégalités sociales. De quel ordre c'est et quel rapport avec l'idée de l'homme-machine ?
Tout simplement parce que toutes les machines que nous promet le transhumanisme pour nous améliorer coûtent très cher. Alors il y a déjà des choses, par exemple, si je parle du cœur artificiel, qui coûte cher, qui coûte plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est pas du transhumanisme de mon point de vue, parce que ça permet pas d'augmenter l'homme, ça permet de soigner quelqu'un qui a un cœur défaillant, c'est comme une greffe de cœur, mais il vivra pas plus longtemps que les autres, jusque-là il vit même beaucoup moins longtemps, malgré son cœur artificiel, parce que ça marche pas très bien. En admettant que ça marche, ça ne deviendrait du transhumanisme que si ce cœur artificiel permettait de vivre 3 ou 4 siècles, c'est-à-dire au-delà des limites naturelles de l'espèce humaine. On est très loin de ça, et je pense pas qu'on y arrive. Donc, j'ai pris cet exemple-là parce qu'il y a un coût. Toutes c'est pareil pour les diagnostics génétiques, pour tout ce qui est de ces enquêtes qu'on veut faire, en séquençant le génome de chacun pour la médecine dite personnalisée, c'est-à-dire d'appliquer des traitements selon le génome de chacun. Tout ça, ça coûte une fortune. C'est bien évidemment pas pour tout le monde. La Sécu pourra jamais couvrir des frais pareils. Donc ça pourra peut-être servir aux riches, mais ça ne pourra pas servir à tout le monde. Les inégalités, elles sont là. Et c'est pour ça que les transhumanistes disent que ceux qui ne marcheront pas là-dedans, comme moi, puisque moi, on me traite de bioconservateur, parce que je ne crois pas et je me bats contre ces promesses. Mais ce sera les chimpanzés du futur. C'est tout un... ça en dit long sur ce que sera l'égalité dans la société à venir. Il y aurait les parvenus. Et puis, il y aurait les minables, qui sont les chimpanzés, qui serviront de bétail d'expérience, je ne sais pas quoi, de main-d'œuvre. Non, ils ne visent pas du tout une société égalitaire.
Vous êtes le premier à avoir réussi un bébé éprouvette en France. Est-ce que par rapport à ça, vous avez peut-être le sentiment du docteur Frankenstein face à sa créature ?
La fécondation in vitro n'a rien à voir avec la génétique. C'est une manipulation de cellules, ovules, spermatozoïdes, mais ce n'est pas une manipulation de gènes ou de chromosomes. Autrement dit, quand on fait un bébé à un couple dans une éprouvette, on lui fait le même bébé qu'ils auraient fait dans leur lit, mais ils ne pouvaient pas le faire. C'est tout. C'est comme ça que j'ai fait la fécondation in vitro, c'est comme ça que je continue d'être d'accord avec la fécondation in vitro. Maintenant, quand elle dérive vers un tas d'autres choses, en particulier vers le tri des enfants qu'on peut avoir, parce qu'on produit beaucoup d'embryons pour un même couple, et on va choisir le meilleur par un examen génétique, j'ai dit dès les années 80 que j'étais contre. cette pratique-là, puisque là, c'est de l'eugénisme, c'est plus du tout de l'aide médicale à la procréation. Donc, qu'on me reproche d'être Frankenstein, on me le dit souvent, mais d'abord, c'est Frankenstein. Enfin, bon, on va pas parler du roman de Mary Shelley, mais je suis pas vraiment d'accord avec ça. Je m'y oppose, parce que aussitôt que j'ai clairement dit néné, donc ce premier bébé éprouvé en France, j'ai dit dans les mois qui suivaient, j'ai dit dans les déclarations, les interviews, il y en a eu beaucoup, que j'avais très peur de ça. J'avais très peur du tri des embryons qui à ce moment-là était impossible. Il est devenu possible 4 ans après. Mais j'ai écrit un bouquin en 1986, donc 4 ans après Amandine. J'ai écrit un bouquin qui s'appelait « L'œuf transparent ». Et c'était vraiment ça. L'œuf humain va devenir transparent. On va voir dans l'œuf, dès la fécondation, et on pourra trier les petits. Et à ce moment-là, on s'est beaucoup moqué de moi, les généticiens en particulier, en disant que ce serait impossible. C'est devenu possible 4 ans plus tard. Et aujourd'hui, ça se répand dans le monde entier. Et on trie les embryons sur des critères de plus en plus nombreux. Donc, je ne crois pas qu'on puisse me reprocher d'être responsable de ça. Ou alors, il faut reprocher, finalement, de faire de la recherche en général. Ou de faire de la médecine. Parce que les gens aussi qui ont inventé des hormones sont responsables du fait qu'on fait produire beaucoup d'ovules à une femme. Et qu'à partir de là, on peut faire la fécondation in vitro, par exemple. Et puis, on peut remonter comme ça. Donc, il y a un moment où il faut dire stop, où il faut situer une limite. Moi, j'ai situé la limite. Faire des enfants qui soient les mêmes que ceux que les parents auraient fait s'ils pouvaient. Mais pour des causes mécaniques, ils n'ont pas pu les faire. Voilà, c'est tout. Mais faire des enfants qui soient mieux que les enfants du hasard, je n'étais pas d'accord et je ne suis toujours pas.
Ça m'interpelle ce que vous dites et je me demande si en tant que biologiste, vous pensez qu'au final, la sélection des embryons, la sélection génétique, apportera à l'avenir une réelle amélioration de l'être humain ou pas, parce qu'en fait, à sélectionner, le hasard de la nature, les croisements génétiques participent à l'amélioration de l'espèce en quelque sorte, enfin d'un point de vue peut-être évolutionniste, je ne sais pas si je m'exprime bien.
Moi je comprends bien, je ne sais pas si les auditeurs comprennent, mais je comprends bien parce que je remue ces concepts depuis longtemps et c'est une très bonne question. On va certainement avoir des moyens qui permettront d'avoir de plus en plus d'embryons dans un couple, en fécondation in vitro, et sans faire souffrir la femme comme aujourd'hui avec les traitements gynécologiques. Bon, j'ai pas le temps de développer, mais c'est des moyens de transformer des cellules banales, des cellules ordinaires, en spermatozoïdes ou en ovules. Ça s'est fait chez la souris, ça se fera chez l'homme, et ça va être une vraie révolution pour la procréation assistée. Et à ce moment-là, si on a des centaines ou des milliers d'embryons pour le même couple, qui sont tous frères, mais qui sont des faux jumeaux, ils sont tous différents entre eux, sauf quelques vrais jumeaux par hasard. Donc on peut là-dedans choisir, et dans le monde entier on choisira à peu près la même chose. Personne ne va choisir des enfants bancals, ayant du diabète, et chaque fois qu'on pourra éviter un risque de maladie, on va l'éviter dans tous les pays, en Chine, aux États-Unis, en Australie, en France. Si bien qu'on va finalement fabriquer progressivement une nouvelle espèce, si tout le monde passe par ce filtre-là. Et je ne vois pas pourquoi tout le monde ne passerait pas à partir du moment où il n'y a plus de souffrance pour les gens qui vont subir ça. Puisque ça va se faire, ça va être des manips de labo à partir de cellules prélevées sur la peau et que la Sécu prendra sûrement en charge parce que ça évitera les grosses malformations et les maladies infantiles qui coûtent très cher. Mais en même temps, et c'était un peu dans votre question, ça va transformer l'humanité. Il y aura des ratés évidemment, mais en gros, statistiquement, il y aura quand même un nouveau profil de l'humanité majoritaire qui va arriver, qui fait qu'on pourrait très bien, étant tous de plus en plus pareils, moi j'appelle ça du clonage social, on va se ressembler tous et on sera pareil, on sera de cette façon beaucoup moins résistant dans une nouvelle maladie. Il y aura des nouvelles maladies avec le réchauffement climatique, avec les bactéries, les virus qui montent et qui se diversifient très vite. On va avoir des nouvelles maladies qu'on ne connaît pas encore, qu'on n'est pas préparé. Et il se trouve que la population risque d'être moins préparée que dans sa diversité actuelle pour répondre à cette agression de l'extérieur, par exemple. Rien que ça. Et puis le fait d'avoir des individus pareils, ça veut dire finalement d'éviter tout ce qui dépasse, d'éviter la marge, d'éviter tous les gens qui, même qui ne se comportent pas comme tout le monde, parce qu'on va trouver des gènes liés à un tas de choses, et c'est assez dramatique, que ce soit pour la sexualité, pour les comportements, pour les addictions, pour un tas de choses. On va essayer de fabriquer de la norme universelle. Et ça, c'est quasiment du terrorisme contre l'humanité. Donc moi, pour moi, c'est le plus grand danger actuellement. C'est pas du tout l'immortalité, les choses dont on parle.
Où est-ce qu'on en est actuellement en France, en Europe, de ces questions de transhumanisme, de progrès scientifique liés à l'idéologie du transhumanisme ?
Alors, il y a un truc, c'est qu'aux États-Unis, on parle ouvertement de transhumanisme. Hein, dans la Silicon Valley qui a inventé ce truc, on en parle beaucoup. En Europe et en particulier en France, on est un peu timide là-dessus parce que le mot fait un peu peur. Et c'est vrai que ça ressemble à eugénisme, un mot qui est aussi tabou. Mais finalement, eugénisme et transhumanisme, c'est à peu près la même chose. Donc, on n'en parle pas avec ce vocabulaire, mais les recherches qui sont faites dans les pays d'Europe et en France, c'est à peu près les mêmes qu'aux États-Unis, et avec beaucoup moins de moyens, mais c'est à peu près les mêmes. Donc, on fait des recherches pour améliorer, par exemple, les conditions, je sais pas, éviter la fatigue, augmenter la mémoire pour préparer les examens, plein de choses. Mais tout ça, ça peut rentrer très facilement dans le cadre du transhumanisme. Et on fait les mêmes travaux qu'aux États-Unis. En recherche. Mais les chercheurs qui font ça ne se rendent pas compte qu'ils œuvrent au transhumanisme. Donc c'est la grande différence, elle est là. Elle est qu'il y a encore un tabou sur le but, que les Américains ont rompu ce tabou depuis longtemps. Mais je pense que dans tous les labos du monde entier, on fait à peu près la même chose.
Je rappelle le titre de votre livre, Au péril de l'humain, les promesses suicidaires du transhumanisme, coécrit avec Agnès Rousseau, paru en 2018 aux éditions du Seuil. Si pour certains le transhumanisme est une notion acquise, voire une menace, pour beaucoup elle est encore floue car il peut être difficile de situer la limite entre progrès médical et techniques dangereuses pour l'humanité, entre la recherche scientifique et le business des nouvelles technologies. Nous avons posé quelques questions sur ce sujet à des personnes du public à l'issue de la conférence. Et tout d'abord, Ilena du lycée Blaringhem de Béthune.
Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est quand même un scientifique qui a créé un bébé éprouvette. Et le fait qu'il soit pour cette cause de vouloir créer des enfants par rapport aux couples qui ne peuvent pas en avoir, c'est bien. Mais je trouve que, comme lui, je trouve que c'est franchement repoussant de trifouiller des embryons, tout ça. Enfin, moi, ça me dégoûte personnellement parce que dans ma famille, je sais qu'on est contre tout ce qui est science sur les enfants, sur les embryons, tout ça. Et ça me dégoûte et ça me tenait à cœur, venant d'un scientifique, de savoir ce qu'il pensait vraiment par rapport à ça. Et si ça allait s'arrêter un jour.
Est-ce que tu avais déjà entendu parler du transhumanisme avant ?
Non, franchement non, j'en avais jamais entendu parler. C'est la première fois que j'entends ce mot, mais je savais qu'il y avait des trucs pas très propres sur ce qui se passait dans la science. Mais maintenant, ça m'a encore plus écœurée, quoi.
Et alors, qu'est-ce que t'en as retenu du transhumanisme ?
J'en ai retenu que c'est quelque chose qui peut faire avancer la science, comme je vous ai dit par exemple, qui pourrait, avec les progrès, donner envie de soigner des maladies mortelles. Mais je pense que pour le moment, c'est encore beaucoup trop faible et fragile pour penser quoi que ce soit dessus, surtout qu'on en parle beaucoup et ça peut donner de faux espoirs à des personnes malades. Ça peut être bien parce que ça peut rassurer certaines personnes de mourir en se disant un jour ça n'arrivera plus, mais je trouve pas ça bien par rapport à des gens qui ont génétiquement un cancer, par exemple le cancer du sein qui est génétique dans certaines familles, enfin héréditaire je veux dire. Je pense que c'est pas bien d'en parler de trop, de dire que ça marche, que ça progresse, alors qu'en fait on sait tous que non, quoi, que ça progresse pas. On a beau, ça fait des années qu'ils recherchent des solutions contre les maladies mortelles et ça progresse pas, ça progressera pas. Tant qu'on va continuer à en parler comme de la science-fiction, ça va faire de faux espoirs et ça va créer encore plus un climat de tension partout. Hein. C'est partout pareil.
La critique du néolibéralisme qui est en train de détruire toutes les valeurs. Cette société néolibérale, et il faut qu'on en sorte. Les gilets jaunes en sont l'exemple. Ils commencent à critiquer cette société où les inégalités sont croissantes. Vous savez que 1% de la population a vu son revenu augmenter de 6%. 1% de la population française. Vous vous rendez compte ? Donc il faut que ça change. Donc ils l'ont évoqué, ça, vous avez entendu que les riches, dans certains pays, c'est les riches qui profitent des nouvelles technologies, les embryons, etc. Voilà.
Qu'est-ce que vous avez retenu du transhumanisme en lui-même ?
Ça me fait penser au système nazi quand on sélectionnait les Lebensborn, les fermes pour embryons. Ça m'a fait penser à ça. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne suis pas assez
Je suis acquis dès le départ, je veux dire que c'est ce que j'attendais, c'est tout. Mais je pense qu'il n'a pas voulu s'étendre sur son activité, sur la partie active, c'est-à-dire la science citoyenne qu'il défend, c'est-à-dire introduire un regard des experts, expertiser les experts. Les experts, on a vu ce qu'ils sont capables de faire, c'est des gens qui peuvent être très dangereux. Le transhumanisme, c'est effectivement qu'on est dans une situation où on fait admettre que, sous prétexte de faire de la recherche sur l'Alzheimer pour pouvoir améliorer la situation par rapport à la maladie de Parkinson, etc., on fait des recherches sur le fonctionnement du cerveau. Et derrière, c'est tout à fait des choses tout à fait différentes. Ça va être effectivement pour améliorer les performances. Ça, c'est le point des GAFA, de Google, Amazon, etc., qui ont le pouvoir de pouvoir utiliser toutes ces informations pour, disons, piloter, par exemple, la télépathie. La télépathie avec des puces RFID entre deux personnes et pouvoir fonctionner avec une puce dans le cerveau qui va pouvoir vous faire actionner une porte de garage, par exemple. Il a cité le truc complètement idiot, le gars qui se fait greffer une puce RFID pour pouvoir rentrer dans son garage tout bêtement. Quoi. Voilà, c'est les idioties qu'on peut avoir.
Le sentiment est un sentiment d'inquiétude aggravé encore, parce que on est vraiment effrayé de cette catastrophe, de ces catastrophes qui rejoignent celles de l'environnement, bien entendu, de cette folie humaine qu'on personnellement, je ne crois pas qu'il n'y a pas possible d'arrêter. Mais je crois que s'il y a une sortie de tout ça, c'est la démocratie sociale. Il faut qu'on soit citoyen, citoyen, citoyen. Éveillé. Voilà.
Et vous connaissiez le transhumanisme ?
Oui, bien sûr. J'ai envie de dire qu'il y a une inquiétante victoire. Parce que appeler ça le transhumanisme, c'est fort. Parce que ça fait moins peur qu'eugénisme, parce que dans transhumanisme, il y a humanisme. C'est un abus de langage, mais c'est vraiment encore plus dangereux. Parce que les gens vont s'habituer au transhumanisme comme un moyen d'améliorer la vie.
Vous avez appris des nouvelles choses, le fait que ce soit quelqu'un qui soit critique de science.
Oui, j'avoue que j'ai déjà entendu parler du séquençage du génome, mais sans en avoir une idée assez précise. Et là, je crois que ça va... l'autre inquiétude, c'est le... Non pas l'inquiétude, mais la surprise, c'est la position du comité d'éthique. Parce qu'en fait, on nous balade avec des nouvelles. Bon, on parle toujours de la GPA, de la PMA, on n'en sort plus. Par contre, ça, c'est quand même une autre affaire encore, hein, que ce séquençage de génome et puis ce crédit prêté au principe du séquençage. Donc ça, c'est inquiétant.